Bonjour,
bonjour, bonjour. Bonjour Christine.
Bonjour Marie-Christiane. Alors nous voilà pour la première émission de cette super radio que vous venez de créer.
Oui, Percé, Villa James, Radio Percé, Villa James, au 96.7 FM, la radio pour les arts. Et quand on parle des arts, on parle des vraies choses sérieuses, hein?
Et là, au fond, on parle de la Villa James, on est en direct de la Villa James, et au fond, c'est la petite équipe de l'Université Laval qui vient ici chaque été, et qui est, alors cette année, là en ce moment, il y a le cours que tu donnes, Marie-Christiane,
oui.
Accompagnée de Geneviève,
oui.
Et il y a le cours de Jacques et Suzanne qui vont venir en parler plus tard, et tout près de nous, il y a Denis, qui est l'âme coordinatrice du lieu, et qui va nous raconter l'histoire.
Bonjour Jacques, bonjour, bonjour Denis.
Bonjour Marie-Christiane, ça va bien?
Oui, ben oui, mais alors, est-ce que tu peux nous parler de cette histoire fabuleuse de l'École des arts visuels et de la faculté dans la faculté des... c'est un peu ça qu'on représente, la faculté d'aménagement, de design, des arts et...
De l'architecture.
Absolument, oui.
Bien, alors, tout d'abord, il faut dire, qu'il faut mentionner quand même que Frédéric James était un artiste, donc originaire de Philadelphie, donc un Américain qui est arrivé ici en 1800, à la fin des années 1800, donc, et qui a décidé, comme ça, j'imagine, mais avec plusieurs raisons, sans doute, de construire la villa Frédéric James dans laquelle l'école existe maintenant. Et donc, sa maison, en fait, qui est inspirée du style Queen Anne, avait un atelier adjacent, donc c'est pour lui donc de pratiquer la peinture. Il habitait ici avec sa femme, donc je pense qu'il a vécu ici jusqu'à... Il est décédé en 1907, donc s'est établi ici en 1887 et est décédé en 1907. Et finalement, sa femme va continuer à vivre ici à Percé. Il faut penser qu'à l'époque... Tout en bas ici, il y a le village de Percé, mais à l'époque, le village s'étalait probablement plutôt autour de l'église. Et donc, ce qu'ils voyaient, donc, c'est les pêcheurs de morue et les voiliers et tout, ça devait être magnifique. Mais j'imagine que tout le monde devait se demander, c'est qui lui, cet Américain qui vient construire cette immense villa et qui était peinte finalement. On retrouve de ces toiles aussi maintenant à Philadelphie dans un musée réputé. Donc, c'est quand même pas rien. Et l'université, finalement, a acquis la villa il y a 12 ans. Donc, l'école existe depuis 12 ans. On l'a acquis d'héritage canadien qui nous a légué la maison. Et donc, depuis 12 ans, en fait, les courses et la programmation de l'été s'est installée de fil en aiguille et d'année en année. Donc, au début, il y avait des séminaires. Donc, peut-être deux par été, ensuite, après 3 ans, donc 4 cours, et puis jusqu'à aujourd'hui, où il y a une programmation qui s'étend de la mi-juin jusqu'à la fin octobre, en fait.
Et toi, là-dedans, ton rôle à l'École internationale d'été de Percé?
En plus d'être un artiste qui travaille l'estampe.
Oui. Effectivement.
Alors, mon rôle, c'est vraiment de coordonner donc la programmation pendant tout l'été, donc accueillir les professeurs. On a des professeurs qui arrivent du Québec, qui enseignent à l'Université Laval, mais aussi dans d'autres universités. On a aussi des professeurs qui arrivent, par exemple, cette année de la Norvège ou de la Belgique. Donc, mon rôle, c'est d'organiser leur arrivée les semaines avant leur arrivée, en fait, d'accueillir aussi les étudiants et d'organiser finalement toute la semaine pour que tout puisse fonctionner et rouler un peu comme dans l'idée de l'université. Mais évidemment, on est comme à 11 heures de l'Université Laval. Évidemment, il y a quand même plusieurs personnes qui travaillent à Québec pour faire fonctionner aussi l'université, donc qui s'occupent des inscriptions, des budgets et tout. Mais ici, finalement, on vit quelque chose de vraiment live. Ça se passe ici, maintenant. Puis, j'organise finalement tout pour que tout fonctionne très bien. Et c'est merveilleux. Donc, il y a des arrivages à chaque dimanche, sauf pour le cours de la maîtrise, donc, qui se poursuit pendant 2 semaines. Et pendant tout l'été, donc un arrivage de dimanche entre 8 et 16 personnes et des cours qui durent une semaine. Donc les personnes quittent le samedi de la semaine suivante, donc et c'est comme ça un roulement tout le temps, avec des cours de peinture, des cours en architecture, des cours en aménagement, des cours en illustration, en design, en animation, web et tout. C'est fabuleux.
Bien, merci, Denis. En fait, là, je veux juste spécifier qu'on est dans le grand atelier de M. James. Là, on va avoir lieu vendredi prochain un vernissage et une présentation des étudiants de la résidence 2, c'est-à-dire des étudiants qui ont déjà fait une année et qui étaient ici l'année dernière, mais cette année, c'est un projet pratique, donc avec des œuvres. On est actuellement dans l'atelier avec les étudiants, artistes. Et merci.
Bonne fête soirée.
Merci, Denis.
Soirée, merci.
Au revoir, Denis.
Au revoir.
Alors, on parle de ce vernissage. Et effectivement, d'ailleurs, les étudiants vont venir parler, les étudiants créateurs qui font un travail de maîtrise en général, c'est ça, pour 2 semaines, vont parler. Après que tu nous aies expliqué, Marie-Christiane, le mode d'approche. Tu utilises un mode d'approche qui intéresse beaucoup les créateurs, y compris ceux de théâtre. Et d'ailleurs, vous êtes proche de la performance, donc il y a quelque chose de théâtral. Ce sont les fameux cycles repères qui ont été utilisés, entre autres, par le théâtre repère, justement, Jacques Lessard et Robert Lepage. Alors, qu'est-ce que ça donne dans ces performances d'art visuel? Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer, donc, repère, il y a une signification, re. Je te laisse expliquer ça aux auditeurs de Percé.
En fait, il faut parler en premier du cours, du séminaire qui se donne actuellement. C'est un séminaire qui porte sur la radio. En fait, l'objet, le médium avec lequel les étudiants doivent travailler, c'est une matière sonore qui est diffusée par les ondes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut utiliser notre antenne, l'antenne du projet, pour faire une émission de radio pendant les deux, aujourd'hui, demain et vendredi. Donc, il s'agissait de travailler avec cette matière un peu étrange qui diffuse de l'information, qui diffuse de la musique, mais d'en faire autre chose que un contenu formel, formaté, je dirais. Donc, l'approche créative est importante. Et donc, j'ai décidé d'utiliser les cycles repères, justement, qui ont été, en fait, à la base créés par un architecte, Lawrence Alprint, qui, lui, a développé les cycles RSVP. Donc, R pour resource, les ressources, S pour score, ça veut dire les partitions, V pour valuation, donc évaluation, et P pour performance. Donc, dans le cadre, si on traduit, ça devient les cycles repères, donc le R pour ressources, RE pour ressources, P pour partition, E dans le repère toujours pour évaluation et le dernier RE de repère E, donc représentation. C'est-à-dire que c'est un cycle qui part de ressources. Donc on disait le R, repère, les ressources sont des ressources concrètes ou des ressources sensibles, c'est-à-dire que dans le groupe que l'on compose avec les étudiants. Il y a différentes questions qu'on leur pose en partant, c'est-à-dire pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi ce projet-là vous intéresse-t-il? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre en faisant ce projet-là? Donc, on se met d'accord sur plusieurs points. Donc, ça veut dire que si un étudiant disait, ben, je viens ici parce que je vais vendre ce que je vais faire à la fin de la semaine, ben on lui dirait, mais c'est pas le but, c'est pas les objectifs des autres. Donc il ferait, on pourrait pas travailler avec lui sinon on devrait suivre, changer l'objectif en fait. Il y a les ressources sensibles. Alors, dans cette première réunion où chacun se présente et justement présente ses objectifs et intérêts, il doit apporter un objet sur lequel un objet significatif sur le thème proposé. Donc ici, le thème c'était percé. Donc chaque étudiant devait apporter un ou deux objets qui représentaient le thème. Donc, pourquoi cet objet-là? Cet objet-là a un sens particulier ou des sens? Et on discute autour des objets pour commencer à créer comme des directions d'exploration. En ce moment, par la suite, les étudiants s'en vont créer des partitions ou des scores, comme on dit. Donc, on entre dans la deuxième phase du processus. Et là, en ce moment, dans l'atelier, ils sont en train de créer des partitions. Chacun travaille sur une improvisation selon un thème. Ben, en fait, ce que l'objet a suscité. Donc, c'est des improvisations. À chaque matin, depuis qu'on a commencé ce processus-là, il y a une évaluation de ce qui a été fait la veille. Et bon, et ça va être jusqu'à temps qu'on fasse la représentation. Donc, le cycle termine toujours par une représentation. Cette représentation peut être reprise par la suite comme une ressource. Donc, ça peut être un cycle comme ça qui peut continuer jusqu'à temps qu'on soit pleinement satisfaite. Dans le cas de ce projet-là, ça va s'arrêter vendredi. Donc, les gens qui sont invités à venir pour le vernissage, ceux qui viendront, vont être devant un premier cycle de travail. Et ça va être quelque chose d'assez, spontané, parce qu'on a eu très peu de temps pour faire tout ça. Alors, voilà. Ben, en fait, c'est plutôt une semaine, parce que la semaine dernière, on était plus dans les concepts théoriques, conceptuels. On est plus sur parce qu'on travaille avec le son. Donc, qu'est-ce qu'est le son? À qui s'adresse cette œuvre-là? À la communauté? Quelle est-elle, cette communauté-là? Aussi, l'objet d'art, quel est-il? Hein, on est ici à la Villa James. Les gens ont une vision de l'objet d'art qui est très particulière. L'objet d'art, c'est quoi? C'est quoi un objet d'art? Donc, c'était et surtout qu'on travaille avec la radio, donc l'objet d'art devient quelque chose de très fluide, très immatériel. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir, mais il n'y a pas nécessairement quelque chose à voir. On est en art visuel, mais on travaille en art sonore. Donc, c'est toute cette problématique-là qu'on aborde et qu'on va présenter vendredi.
C'est très intéressant, on comprend un peu comment ça marche. Et donc, ce sera la première représentation vendredi à 5 heures, c'est ça?
Oui,
exactement. Vendredi à 5 heures, une sorte de 5 à 7, enfin, il vaut mieux être là à 5 heures. Hein. Et donc, trois résultats d'art sonore, probablement. Enfin, tout est permis, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et là, il y a entre autres Marilyn qui va venir nous en parler. Et puis, deux autres étudiants, et je te laisse dire leur prénom parce que j'ai un petit trou.
Là, il y a Marilyn Leblanc, Yann Farley et Stéphanie Verrier. Trois étudiants qui travaillent chacun sur une partition, mais en fait, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils font parce qu'on va le savoir. Ils sont libres et ils sont maintenant dans leur bulle de création. Donc, on n'ose pas trop intervenir dans leur bulle, mais en ce moment, on va les déranger. Donc, peut-être qu'on pourrait demander à la plus proche de s'approcher.
Ce serait tout à fait délicieux.
Bonjour.
Alors, c'est Marilyn. Marilyn, donc, on a compris que tu avais d'abord apporté un ou deux objets en relation avec Percé. Alors, je te laisse nous les découvrir.
Le premier objet que j'ai apporté, c'est un couple de touristes. Bien sûr, j'ai pas apporté le couple de touristes réel, mais bien une représentation d'un couple touriste. Je me suis inspirée d'une œuvre de Dwayne Hansen qui représente justement une sculpture et c'est un couple de touristes. Je l'ai fait imprimer puis je me suis amusée avec ces images-là. J'en ai fait des marionnettes. Le second objet, c'est une boîte de sardines.
Oh! Très intéressant ces deux objets. On est au cœur de l'action.
Ben, écoutez, c'est un point de départ.
Absolument, absolument. Et où en es-tu de ce travail? Est-ce qu'il y a déjà une interaction, une forme qui est en train... Est-ce qu'il y a déjà une forme qui est en train de se prendre? Ces deux objets, tu les as amenés il y a 2 semaines, c'est ça? Et qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc, tu t'es amusé avec ces dessins. Les sardines, tiens, j'aimerais bien savoir ce que deviennent les sardines. Et d'ailleurs, pour moi, sardines, ça résonne tout de suite avec Marseille. Et parce qu'il y a l'histoire de la sardine qui a bouché le port de Marseille. Ici, est-ce qu'il y a des sardines à percer?
Je vais t'avouer, j'ai pas fait cette recherche-là et c'est pas du tout dans cette optique que j'ai amené l'image des sardines. Mais je suis contente de savoir que des sardines peuvent boucher un port parce que l'idée de la sardine, c'est l'idée du groupe, de la masse. Puis les sardines que j'ai apportées sont très précisément dans une boîte de sardines, toutes alignées, toutes compressées. Donc c'est un peu plus cette idée-là de compression, de saturation de l'espace que je voulais apporter. C'est peut-être plus dans ça qu'on est que dans la sardine comme telle.
Dans la foule, dans les gens qui se grouillent autour de ce lieu magnifique, peut-être, qui est percé. Donc, tu es étudiante en maîtrise. Tu en es venue comment à l'art?
C'est vraiment une question à laquelle je ne peux pas répondre. C'est pas comme tranché dans une vie. Ça se passe, ça va de soi, ça arrive. Ça s'est fait graduellement, puis là, tu m'apprends aujourd'hui que je suis artiste, là, mais j'y pense pas d'habitude.
Oui, c'est mieux comme ça, je pense. Tu viens des îles de la Madeleine?
Oui.
Et est-ce que tu te reconnais bien ici à Percé, entre les îles et Percé?
Oui, en fait, je trouve que Percé, ça pourrait être une extension des îles ou vice-versa. Il y a vraiment une familiarité, mais en même temps, les rochers sont tout à fait différents. On n'a pas ces beaux rochers-là. Je pense que pour des géologues, des amateurs de toutes ces strates puis de cet univers, c'est fort intéressant. Puis on n'a pas cette qualité ou cette variété de roches que je découvre ici.
Donc, visuellement, c'est une chose qui t'inspire pas mal, là, les roches, les fameuses agates. Est-ce que ça va jouer un rôle dans ta partition et, au bout du compte, dans la représentation?
La roche, non. Je n'ai pas apporté la roche ou l'aspect géologique dans ce projet-là. Okay. S'il s'y retrouve, ça va être de façon tout à fait inconsciente. Mais voilà, on n'a pas... non, puis j'ai jamais vu une agate. À quoi ça ressemble, une agate?
Écoute, j'en ai vu quelques-unes maintenant. Il y a toutes sortes de formes. Ça va être aussi riche que tout ce que vous allez faire vendredi. Enfin, donc il y aura 3 formes déjà différentes dans ce que vous allez apporter vendredi. Est-ce que tu as une petite idée, parce que je sais que tout est ouvert, de la forme que ça va prendre? Ça va être de l'art sonore ou... Tu as des marionnettes, tu as dit. Donc, il y a peut-être quelque chose de quasi théâtral dans ton travail qu'on va voir vendredi.
Les marionnettes ont été utilisées comme point de départ, mais ne se retrouveront probablement pas dans la forme finale. C'est un point de départ, hein, on a tout. On transforme, puis on transforme ce qu'on crée, puis on transforme ce qu'on a créé, donc ça n'arrête pas. Et je pourrais pas te définir de forme pour l'instant.
Il y a beaucoup de transformations. Il y a Marie-Christiane qui brûle de dire quelque chose.
En fait, il faut parler des ressources comme un point de départ, justement, comme justement une partition en tant que telle. Un objet a tellement de sens, ça dépend de la qualité de l'objet, mais les objets qu'on demandait devaient justement faire réfléchir, animer une discussion. Donc, on a discuté autour des objets et c'est cette discussion-là qui va être transformée en un autre objet. Et il faut spécifier que c'est pas nécessairement 3 partitions différentes. C'est peut-être trois partitions différentes, mais c'est un ensemble. Donc, alors là, je ne sais absolument pas encore la forme que ça va prendre, mais je crois que personne ne le sait encore parce qu'on est en travail de création. Donc, c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure en dialogue parce qu'il faut, dans cette forme-là, discuter. La communication est très importante parce qu'il faut toujours être d'accord pour garder l'espèce de consensus comment je pourrais dire...
Que chaque membre du groupe atteigne ses objectifs.
Oui, exactement. Il faut que tout le monde soit satisfait quand il quitte. Donc, voilà.
Bien sûr.
C'est ça.
Que chacun soit satisfait de ses réalisations. J'ai vu sur l'ordinateur de Marilyn tout à l'heure une sorte de découpage avec Audacity, des sortes de montages. Ce sont des brillants créateurs qui savent utiliser la technique. C'est intéressant. On va voir ce que ça donne. Je me demandais, Marie-Christiane et Geneviève qui vous accompagnent, est-ce que vous êtes aussi des créatrices d'art radio, d'art sonore? Je pense que oui, votre travail rejoint ça un peu.
Ben en fait, moi, je travaille actuellement sur un projet qui s'appelle Musique de char. En fait, c'est un projet qui se déroule sur l'autoroute 20 entre Montréal et Québec. Et qui, en fait, le séminaire de cet été est vraiment dans la lignée de la recherche. Et c'est pour cette raison que Geneviève Gasse, qui est avec moi, m'accompagne parce que c'est l'étudiante de maîtrise qui est mon assistante sur ce projet-là. Donc, on a arpenté l'autoroute, je ne sais plus combien de fois, on ne les compte pas, en petite van. On a habité, on a presque fait du camping sur la 20 entre Montréal et Québec. Ce n'est pas une grande distance, mais juste pour analyser tout le potentiel des ondes de toutes sortes, que ce soit les ondes à la radio amateur ou la radio commerciale ou la radio d'État ou la radio des CB ou en tout cas, tout ça. Alors, c'est pour créer un parcours parallèle à la route et aussi trouver la signature de cette autoroute-là par le son et l'image aussi. Donc, c'est une combinaison. Ouais.
Alors là, on a des créations liées au monde marin. D'ailleurs, et là, toi, tu parles d'autoroute, donc le monde plus urbain, plus le char. On pourrait faire un petit salut à nos amis de Percé à différents endroits parce que entre autres je pense que vous avez dû aller voir l'expo de Alberto Tomi au musée du Chaffaut et pour les sardines ça m'amusait parce que l'autre si on s'amuse à faire des associations hein, ce que vous faites sans doute dans les sardines, il y a les fameux millésimes portugais. Et il y a une recette portugaise au Café des Couleurs là-bas, de la morue. Alors, il y a beaucoup de choses maritimes. Donc, Marilyn, avant qu'on entende tes deux collègues, Stéphanie et Yann, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de l'inspiration de Percé ? Parce que ça fait plusieurs étés que tu viens ici, donc tu as déjà amené ces deux ressources au départ. Qu'est-ce qui te nourrit de tout ce coin-là, que ce soit, je sais pas, des images du musée ou de tous les environs. Tu as peut-être pas trop le temps non plus de les voir, mais qu'est-ce qui t'habite de tout ça?
Eh bien, chaque espace, si on prend le temps de l'observer sous un angle différent, est immensément riche. Donc, même si je restais dans ma chambre à la maison bière, je suis sûre que je pourrais générer beaucoup d'idées. Alors, imagine de se promener, d'en percer, d'observer, d'être à l'affût, comme entre autres nous avons appris à l'être dans le cours. Il y a énormément de choses. En fait, je te dirais que l'inspiration, c'est pas le problème, c'est d'épurer en ce moment qu'on tente de faire parce qu'il y a énormément de matière. Trop.
Problème du choix.
Oui.
Tout le monde va devoir s'y confronter durement d'ici vendredi. Alors, est-ce que tu as vu les travaux de tes collègues? Un petit peu, vous regardez rien, vous allez être tous surpris les uns les autres.
Ben, tu parles
Vous parlez, Christine, de voir, mais c'est plutôt d'entendre, parce qu'on travaille beaucoup avec le son.
Et
ben, comme on fait quelque chose ensemble, on se fait écouter effectivement ce qu'on crée chaque matin. De temps en temps, on prend une pause, on écoute ce que l'un est en train de faire. On travaille aussi avec une banque d'extraits sonores qui sont les mêmes, mais on les manipule différemment pour chacun. Donc voilà, c'est plutôt une question d'écouter que de regarder le travail de mes collègues. Mais oui, on partage énormément nos ressources.
Ah, ça c'est donc c'est écouter, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, faire écouter et partager votre recherche aux gens qui, aux auditeurs, aux habitants de Percé qui sont peut-être tombés sur le 97.6, je me trompe pas de fréquence. En tout cas, les gens qui entendent le savent. Et donc Stéphanie et Yann, à vous l'honneur.
Bonjour. Je suis devant le micro.
Ah non, mais je donnais la parole à Yann. Quels sont tes objets ressources que tu as apportés?
Mes objets, mon premier objet était sonore. Donc le sonore peut devenir un objet qu'on observe de différents angles. Il peut quasiment être comme de la matière. Hein. Et cet objet, c'était un parcours, une sorte de déambulation que j'ai fait à Percé même, dans le coin touristique. Donc, on entend des gens, on entend les touristes qui rentrent dans les boutiques, qui se promènent. On entend aussi les voitures qui circulent. Les voitures circulent, qui font un bruit un peu comme la mer, qui nous offre un son assez particulier. Et puis, c'est ça. Fait que c'est la première matière que j'ai rencontrée, c'est celle-ci. C'est celle-là que j'ai présentée. Deuxième objet, qui est matériel, celle-là qui est tangible, qu'on peut toucher, c'est un bois de grève. Finalement, c'est une sorte de branche qui est restée comme acérée dans la mer pendant longtemps, avec une forme assez intéressante, qui ressemble un peu à d'une éclair. Vous m'entendez? Bon, c'est parfait. Alors, c'est ça, mes deux objets ressemblent à ça. Oui.
OK, le bois de grève, alors, c'est devenu une sorte de matériau premier ces dernières années des œuvres d'art. Je crois qu'il y a des expositions autour du bois de grève. On fait des choses magnifiques avec ça. C'est un joli choix. Est-ce qu'on peut demander déjà, je sais que vous ne savez pas du tout encore quelle forme ça va prendre, mais la partition, la fameuse, l'étape 2 du processus. Là, vous êtes à peu près à la mi-parcours, je dirais. Vous évaluez chaque soir. Là, on a là où vous en êtes. Et la représentation, c'est vendredi. Bienvenue à tout le monde à Percé à 5h, à la Maison de James. Est-ce qu'il y a déjà une sorte de forme que ça prend, cet art sonore, avec toi, Yann?
Pas vraiment avec moi, mais avec nous tous. Avec oui, exactement. Ben, ça se passe... Ce qui est intéressant dans ce processus de création-là, c'est la rencontre de trois individus, de trois créateurs qui ont un parcours différent, qui viennent qui ont une façon de s'exprimer complètement différente aussi. Et puis là, on se rencontre, puis en premier lieu, on est comme confronté à nos méthodes de travail, et tranquillement, on vient qu'on s'ajuste, on s'observe. Puis c'est à travers cette observation-là, lente, tranquille, qu'il y a des choses qui émergent. Puis on se rend compte quand ces choses-là apparaissent, on se les révèle, on en parle. C'est vraiment important le dialogue, parce que c'est trois artistes qui normalement sont habitués de travailler un peu isolés chacun de son bord. Et là, c'est une création commune. Okay. Donc, la discussion est extrêmement importante. Mm-hmm. Alors, il y a des moments où on se retire. Chacun, on arrive dans notre bulle de créateur. Et puis après ça, il faut crever cette bulle-là pour se rencontrer. Mais c'est une expérience assez exceptionnelle pour moi dans ma pratique personnelle, qui est habituée justement d'être dans mon atelier, à être dans une sorte de cycle repère autonome et personnel. Et là, de le partager avec d'autres, c'est un apprentissage exceptionnel.
Est-ce qu'il est difficile le partage ou le travail en collaboration? Pas nécessairement parce que les partenaires sont difficiles, c'est pas ça, c'est que justement un artiste travaille souvent seul, ou donc de travailler sur une création collective, si je peux dire.
Oui, c'est difficile. C'est difficile parce que même personnellement, c'est difficile d'accoucher. De mon côté, c'est on a beaucoup d'éléments. La création, c'est ça, on accumule des informations. Finalement, tout est information. Et puis, tranquillement, on patauge à travers cet ensemble-là de matière. Et puis, avant qu'il se passe quelque chose, un certain moment d'ignition, on est dans une insécurité incroyable. Moi, je suis dans une insécurité incroyable. Jusqu'à temps que les choses se révèlent. Et là, enfin, bon, l'artiste a la révélation, on pourrait dire. Sauf que là, ce petit moment-là, là, on le vit à plusieurs. Fait que c'est ça on n'est pas seul à vivre ça. Fait que là, il faut s'en parler. On peut même peut-être pleurer s'il faut.
C'est toujours bon. Sonorement, ça peut être très intéressant. Comme les vagues, je ne sais pas, les murmures des sirènes, il faut voir. Mais on sent qu'il y a une bonne chimie entre vous trois quand on pénètre dans cette salle-là. Je n'avais pas compris que c'était entrelacé, la création. Donc, ce n'est pas trois résultats qu'on va avoir, c'est un résultat, un trio, un travail d'un trio sonore avec ces interactions que vous avez entre vous. Alors, Stéphanie, quels étaient tes deux objets ce que tu as apporté au début, tes objets ressources?
Alors, le premier jour, j'ai apporté des plumes. Un paquet de plumes que j'ai ramassées sur le bord de la mer, ainsi qu'une roche. Bon, je suis vraiment partie des éléments naturels du lieu, parce que dans ma démarche, je travaille dans des environnements naturels aussi. Puis ça, c'était le premier jour, chacun, on a partagé notre objet, on a discuté ce que ça nous évoquait, puis à partir de là, on a créé d'autres choses qu'on a apportées le lendemain. Là, on évolue plus vers une forme, nos objets sont en plus une forme sonore. De ce temps-ci, on travaille vraiment sur le son. Pour l'instant, on travaille chacun de notre côté. En même temps, on se rejoint pour partager qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. Puis, c'est pas mal ça, là.
Alors, le son de la plume, qu'est-ce que ça donne?
Finalement, j'ai pas du tout travaillé sur le son de la plume. La plume était l'objet de départ. Ça représentait une sorte de poésie, de légèreté, puis surtout la plume qui vient de l'oiseau. L'oiseau qui est pour moi une emblème de Percé, parce que beaucoup de gens, dont moi, quand on vient à Percé, c'est aussi pour aller sur l'île Bonaventure, éventuellement voir les oiseaux, les fous de bassin. Les fous de bassin, il y en a très peu. Il y a très peu d'endroits où on trouve des fous de bassin à travers le monde. Il y en a plusieurs au Québec, dont ici, à Percé. Donc, c'était vraiment pour moi quelque chose de très symbolique de l'endroit. Donc, je suis partie de là. Puis, les cris des oiseaux, c'est sûr que, bon, on les entend. Les oiseaux sont présents dès le matin, dès le lever du soleil. On les entend crier. Mais ça fait partie de l'environnement sonore dans lequel on évolue. En fait, vraiment, ce qu'on fait depuis qu'on est ici, je pense à tous les trois, surtout que le sujet du séminaire est sur la radio et donc forcément une création plus sonore que visuelle, on l'espère, c'est qu'on est vraiment concentré sur développer cette sensibilité sensorielle partout où on se promène, partout où on va. Même dans la maison, d'ailleurs un autre objet que j'ai voulu apporter mais que j'avais pas capté le premier jour, mais je l'ai capté comme deux jours plus tard, c'est le craquement des planches du bois dans les vieilles maisons, la maison Biard, la Villa James, qui font partie de notre univers du soir et de la nuit, parce que c'est rendu que personnellement, à force de faire attention à cette attention sélective à tous les sons pour notre projet, on en vient des fois à avoir de la misère à couper, à se faire une bulle pour décrocher. Et dans les maisons, il y a ce bois qui craque continuellement au passage. Je ne sais pas si on l'utilisera, ce qu'on fera avec, mais il fait partie de l'environnement sonore. Fait que finalement, c'est vraiment développer une sorte de présence à autre chose qu'au visuel, donc au sonore. Puis c'est bien intéressant.
Alors, à vous trois, je pense que vous êtes allés chercher pas mal tous les éléments, l'air, l'eau, la terre. Ça va être très riche. C'est un rendez-vous, vendredi 5h à la maison de James. Alors, Marilyn, Stéphanie, Yann, ça donne envie et on attend avec impatience, chers auditeurs, à vendredi. Et en attendant que Jacques et Suzanne, qui font un cours ensemble depuis quelques années, viennent nous expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils amènent, je vais passer la parole à Geneviève pour nous dire, puisqu'elle est là, c'est une autre habitante d'ailleurs de la maison de la Berge. On rencontre des habitants de la maison Billard, de la maison James, de la maison de la Berge. Alors Geneviève, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu as le temps d'être inspirée pour ton travail?
C'est sûr que ça m'inspire pour mon travail. Toutefois, je me suis vraiment plongée, je pense, dans dans le travail présent aussi. Surtout aussi dans l'aspect de la documentation ou essayer de trouver des documents sur le projet. Dans le fond, c'est ça, moi je suis un petit peu plus dans la recherche, donc j'ai effectué des recherches sur le cours, sur la documentation. Du processus créatif. J'avais donc passé maintenant l'appareil à Marie-Christiane Mathieu.
En fait, on a fait un petit jeu de chaise ici et là, on est tout désordonné. C'est pas trop compliqué quand j'ai pris la chaise de Christine. Christine qui anime vraiment bien cette première émission de Percé, la radio Percé Villa James 96.7 FM. Hein? Donc, je vais remettre le micro à Christine qui va parler avec nos deux autres professeurs qui, eux, reçoivent les étudiants de la première année de la maîtrise interdisciplinaire en art. Donc, à toi, Christine.
Alors, très honorée d'animer cette première émission de Radio Percé Villa James. Et d'ailleurs, on s'amusait à dire tout à l'heure, mariage pluvieux, mariage heureux. Alors, longue vie à la Radio Percé de la Villa James. Et alors, Jacques et Suzanne, ça fait un moment que vous travaillez ensemble et vous avez développé un art d'articulation très intéressant. Je vous laisse en parler, de votre cours, comment ça s'articule les deux parties. Suzanne.
Oui, ben, sur un plan assez académique, on peut dire que les deux activités qui sont impliquées, plan d'études et résidence 1, ont été conçues comme des activités concomitantes dans le programme de maîtrise interdisciplinaire en art. Ça veut dire qu'elles doivent se donner en même temps de façon liée. Et effectivement, depuis quelques années, depuis quelques années, on travaille ensemble dans le programme, mais pour ce qui est de ces deux activités, Marie-Christiane a déjà fait le plan d'études. Depuis 2 ans, Jacques et moi, on travaille ensemble et je fais le plan d'études. Et on se rend compte qu'on est en train de développer une formule dans laquelle le cours de Jacques et celui que je donne créent des espaces de circulation dans lesquels les étudiants, par exemple, de plan d'études, vont chercher beaucoup d'éléments du cours que Jacques donne comme puissance de travail, si je peux dire, pour développer le projet dont il est question dans le plan d'études. Alors, je pense que je vais d'abord laisser la parole à Jacques, puisque c'est lui qui introduit les étudiants à l'état de l'art actuel et que c'est avec ces concepts-là, au fond, que les étudiants travaillent d'une façon particulière là, au cadre dans lequel ils doivent développer un projet dans le plan d'études.
Merci, Suzanne. Alors, le séminaire que je proposais aux artistes étudiants cet été avait pour thème ou titre « L'art et quotidien », avec comme sous-titre aussi « Objet et contexte ». La question de l'art et le quotidien, c'est un thème majeur qui traverse toutes les avant-gardes du 20e siècle, à savoir cette tentative audacieuse de fusionner l'art et la vie. La question de l'objet et du contexte est fondamentale parce que ça se fait avec quel objet et dans quel contexte. Alors, dans un premier temps, dans la première semaine, je pose les bases historiques de la question en présentant les pratiques d'artistes très connus maintenant comme John Cage, Alan Krakow, Fluxus, c'est-à-dire principalement les mouvances néo-avant-gardistes des années 50 et 60. Dans la deuxième semaine, on s'approche plus de la période contemporaine en présentant des pratiques qu'on appelle post-conceptuelles. Ce qui m'intéresse là-dedans, moi, c'est de voir comment est-ce que les jeunes artistes qui émergent au début des années 90 vont puiser dans l'héritage des néo-avant-gardes, réactiver des concepts, des stratégies ou des dispositifs en déplaçant les enjeux et les paramètres. Ça, c'est toujours très utile pour les étudiants parce que lorsqu'on commence une maîtrise, on va forcément rédiger un essai ou un mémoire. Et c'est très important d'être en mesure de contextualiser sa pratique, c'est-à-dire établir des références avec les prédécesseurs pour voir un peu quel effet de sens ça peut avoir pour leur propre pratique. Alors, vite fait, là, en bref, c'est ça le contenu du séminaire. C'est très important pour moi aussi d'introduire des notions opératoires ou des concepts en espérant toujours, bien sûr, qu'ils soient utiles pour les étudiants, comme la question de la réactivation, la question du détournement, des concepts qui ont encore une fois traversé le 20e siècle, mais qui sont encore aujourd'hui pertinents. Donc, le séminaire que je propose repose en grande partie sur la présentation de pratiques. Je présente les pratiques et je montre aux étudiants comment ces concepts sont opératoires dans les pratiques artistiques.
Mm-hmm. Alors, tu parlais de réactivation, mm-hmm. de détournement. Oui. Est-ce que tu veux nous donner un exemple concret?
Oui, bien sûr. J'aime commencer tous mes séminaires en présentant la pratique de Marcel Duchamp, bien sûr, figure emblématique du 20e siècle. Et tout le monde connaît aujourd'hui, bien sûr, sa célèbre fontaine, en fait son urinoir. On a là un cas parfait de ce qu'on appelle l'appropriation. Marcel Duchamp s'approprie un objet du quotidien, un objet manufacturé, et le détourne, c'est-à-dire qu'il le prend dans le contexte original, à savoir le magasin où il l'a acheté, il le détourne en l'amenant dans le contexte de l'art. C'est pour ça que j'insiste sur le sous-titre du séminaire, Objet et contexte, pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement, c'est une manœuvre très simple, hein, en prenant un objet du quotidien, en le déplaçant dans le contexte de l'art, tout le sens change. Mm. Donc, je commence toujours avec Duchamp, mais on peut voir comment est-ce que Cage va fonctionner avec beaucoup de ses œuvres. Et bon, les artistes d'aujourd'hui aussi également. C'est pour ça que je constate que ce sont des notions encore très, très pertinentes, encore pleines d'énergie.
Alors, le choix est important justement, parce que c'est donc Duchamp qui va choisir tel objet, en l'occurrence cet objet de l'urinoir si célèbre, dans un magasin pour telle et telle raison. C'était d'ailleurs bizarre parce qu'il disait qu'il ne fallait pas trop le trouver beau, enfin, ouais. Il y avait tout un, ouais. des critères multiples au choix. Ouais. Mais les jeunes parlaient du choix tout à l'heure, les jeunes artistes en formation avec Marie-Christiane, qu'ils allaient avoir, que le grand moment, ça allait être de choisir, ouais. de dire bon, je prends ça, je laisse ça, etc. Pour Cage, tu nous donnerais un exemple encore peut-être, puisque c'est un exemple musical et qu'on est sur le sonore et tout.
Déjà dans les années 30, John Cage, avec son premier orchestre, un orchestre de percussion, avait intégré des objets qui trouvaient dans ce qu'on appelle ici au Québec des cours à scrap, des cloches, des bouteilles, toutes sortes d'objets du quotidien qu'il avait intégrés dans son orchestre et avec lesquels il faisait de la musique. Alors, Cage l'a souvent dit, il doit tout à Duchamp. Il connaissait très bien Duchamp. Et c'est en réfléchissant aux manœuvres, aux stratégies mises de l'avant par Duchamp qu'il est arrivé à rien de moins que redéfinir la musique. L'autre pièce importante, bien sûr, c'est son fameux 4 minutes 33 secondes où il se passe, comme vous savez, rien. Le pianiste s'assoit devant le piano, va bouger les bras à trois reprises, mais ce qui compte pour Cage à ce moment-là, ce sont les sons ambiants. Tous les sons qu'on entend, les spectateurs ou les auditeurs plutôt impatients sur leur fauteuil, devient pour Cage de la musique.
Alors, Yann, qui a parlé tout à l'heure, nous parlait de sa petite promenade à travers Percé où il a pris tout ce qui rentrait comme ressource, tous les sons qui entraient dans son enregistreur au moment de sa balade. C'est amusant. J'ai vu que Suzanne voulait intervenir sur ce sujet. Ah non, je voulais aussi dire avant, parce qu'on était hier soir à un spectacle à la Vieille Usine, salut ouais. à la Vieille Usine s'ils nous entendent, ou aux amateurs de ce lieu si vivant, un des musiciens des Frères Barre, on était là-bas avec Marie-Christiane et pas mal d'autres personnes d'ici, a utilisé une roue de vélo. Bon, oui. C'est plus complètement nouveau, mais quand même. Alors, il y a eu les triplettes de Belleville qui ont pas mal utilisé toutes sortes de choses. Mais c'était très intéressant. Ils étaient très créatifs, d'ailleurs, très inventeurs, avec toutes sortes d'objets. C'était assez intéressant à suivre. Tu aurais peut-être pas détesté, d'ailleurs. Suzanne, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure?
Je voulais dire... Enfin, j'attendais, au fond, de présenter l'activité plan d'études.
D'accord.
Et, bon, OK. Alors, je dirais que l'activité plan d'études consiste à amener les étudiants à ouvrir un champ de travail. Ce sont des gens qui sont déjà dans une pratique professionnelle, et une pratique professionnelle à plusieurs égards. C'est-à-dire, souvent, c'est des gens qui ont à travailler et qui ont, d'autre part, une pratique artistique. Et l'idée, c'est que, du coup, c'est d'entrer dans un champ d'expérimentation, c'est-à-dire, au fond, dans une sorte de, je dirais, presque de bulle académique, qui est une sorte de milieu protégé, dans lequel ce sera possible de prendre des risques, ou d'expérimenter des idées sans nécessairement avoir à se confronter avec un milieu professionnel qui peut avoir des critères assez stricts, tant sur le plan des expositions ou des demandes de subventions. Donc, il s'agit de profiter du contexte universitaire pour vraiment tâcher d'aller de façon assez audacieuse, travailler un certain nombre d'idées et de les travailler en essayant de s'inscrire de la façon la plus sensible, pointue, vivante possible, vibrante, je dirais, dans le contexte de l'art actuel. Et c'est la raison pour laquelle le travail, le rapport avec le cours de Jacques est extrêmement important. Parce que ce qu'il fait, c'est une mise en situation de ce qu'on pourrait appeler le champ de l'art actuellement. Et ce que ça fait, c'est que ça donne aux étudiants un certain nombre de points de repère qui servent d'embrayeurs pour leur propre réflexion. Dans le cours que je donne, j'essaie au départ de donner trois grands concepts qui sont comme trois grands axes autour desquels réfléchir. Le rapport à l'époque dans laquelle on se trouve, qu'est-ce qu'on pense de l'époque, comment on perçoit l'époque à laquelle on est, le rapport au monde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense l'ontologie de notre époque, quels sont les principaux objets de notre époque? On a parlé d'objets qu'on trouvait, etc. Qu'est-ce qu'on estime être, un peu comme quand on a un roman, on a un ensemble de personnages, on a un ensemble de situations, c'est ce qu'on pourrait appeler l'univers sémantique. Alors, quel est l'univers sémantique dans lequel on est à notre époque? Et tout ça pour créer, ou enfin pour concevoir un rapport à la réalité, un sens de la réalité. Donc, il y a d'une part une contextualisation artistique qui est faite dans le cours de Jacques, et moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'introduire l'idée que l'art travaille dans un rapport direct à la réalité et de donner des concepts pour les penser. Alors, je travaille notamment avec Kuhn, le concept de paradigme, Nelson Goodman, dans lequel on a l'idée que toute œuvre, tout texte constitue une version du monde, et avec aussi Charles Morris, qui est un grand sémiologue, qui a introduit trois axes importants pour comprendre la signification, la syntaxe, la sémantique, la pragmatique. Une fois qu'on a établi ces très grands points de repère, qui sont comme des points de repère philosophiques, où on est vraiment dans une réflexion sur les principes ultimes qui peuvent guider une réflexion, là on entame un processus qui est très de réflexion, dans lequel on est en rencontre individuelle, et où là, on doit partir d'un point de départ, le point de départ étant les présentations que les étudiants font d'entrée de jeu à l'arrivée dans le cours plan d'études, où ils font le point sur leur pratique actuelle, et le jeu, si je peux dire, la mise en situation, c'est d'en arriver à la fin du cours, à la présentation d'un champ de travail où on se sera déplacé par rapport à la présentation de départ. Et ce déplacement-là, c'est un travail très intensif qui s'effectue dans les deux semaines qui suivent, où les étudiants, donc, entrent en réflexion, je dirais, avec les moyens du bord, parce qu'on n'est pas à l'université, donc ils sont avec Internet, ils discutent entre eux, je les rencontre dans un rapport de questionnement, de critique, etc. Et là, ils doivent donc faire une seconde présentation où ils pourront mesurer le chemin parcouru par rapport à une première présentation. Alors, en gros, le travail qui se fait dans plan d'études, c'est celui-là. Alors, je voulais aussi dire une chose importante par rapport au programme, c'est que, comme c'est un programme à distance, c'est extrêmement important de constituer la cohorte, c'est-à-dire que les gens vivent ensemble, ont des cours avec Jacques, travaillent aussi dans le contexte de plan d'études, peuvent discuter le soir à la maison billard. Et ce que ça fait, c'est comme ils vont être dispersés ensuite dans leur milieu, ils auront au moins un sens communautaire. Et ça, c'est un concept assez important dans le programme de maîtrise interdisciplinaire. Il le revoit également, par exemple, en résidence 2, ou dans certains cours où ils vont discuter ensemble, mais à distance. Mais dans le cas de résidence 1, résidence 2, ils ne le font pas nécessairement tous ensemble. Mais en résidence 1, ils sont tous là à l'entrée. Et ça, c'est très important pour créer un point de repère quand ils vont être à distance, puis éventuellement communiquer entre eux. Et une autre chose importante, c'est la troisième dimension que je voudrais introduire, c'est qu'est-ce que ça veut dire interdisciplinaire, hein, c'est maîtrise interdisciplinaire en art. Le concept d'interdisciplinarité qui est à l'œuvre, c'est que les gens qui arrivent, comme je l'ai dit au début, ont à la fois une pratique professionnelle d'artiste, mais aussi ils doivent gagner leur vie, souvent dans d'autres pratiques professionnelles. Et c'est assez intéressant de considérer que l'interdisciplinarité dans la maîtrise interdisciplinaire, c'est pas seulement une interdisciplinarité académique. On sait qu'à l'université, il y a plusieurs disciplines et que, bon, ces disciplines, il peut y avoir des projets mixtes. Mais c'est aussi une interdisciplinarité professionnelle. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, quelqu'un ici qui est dans une pratique comptable, quelqu'un qui est dans une pratique médicale, des gens qui sont dans des pratiques pédagogiques. Et ce que je trouve toujours très intéressant, c'est de dire que tous ces concepts-là travaillent dans l'ouverture d'un champ de travail artistique. Et ça rejoint le cours de Jacques, qui travaille avec le concept d'art et vie. Alors, donc, d'une certaine façon, ce contexte d'interdisciplinarité et cette manière de contextualiser l'art actuellement, je pense qu'on en est arrivé à une formule où, moi, je me rends compte avec mes étudiants qu'ils travaillent vraiment avec les concepts que Jacques introduit, non seulement sur le plan d'une problématisation, mais aussi sur un plan méthodologique. Alors, bon, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là, des dimensions du programme.
Alors, ce qu'on entend déjà, c'est la chimie dans les deux cas, dans les deux groupes, cette chimie qui se crée entre les étudiants. Tu parlais d'une cohorte. Là, les trois aussi du cours de Marie-Christiane travaillent ensemble et vont créer une œuvre commune. C'est intéressant. Et puis, de développer aussi complètement ce qu'on entend par interdisciplinarité, ce qu'on ne sait pas toujours bien. Vous atteignez une forme là dont vous êtes assez content, en fait. Et oui.
On est d'autant plus content que la cohorte qu'on a eue cette année était vraiment exceptionnelle. Lorsqu'on arrive à Percé, forcément, on ne sait pas encore à qui on va s'adresser. Il y a toujours un élément de surprise, ce n'est pas de suspense aussi à chaque fois. C'est une des caractéristiques de Percé que j'aime beaucoup, parce qu'il faut s'ajuster. Il faut s'ajuster vite. On accueille les étudiants la première journée, on commence à mettre les choses en place. La première semaine, comme je disais tantôt, c'est plus l'idée de placer certaines choses, mais la deuxième semaine, là, ça défile à toute allure. Tu sais. Mais à la suite des commentaires de Suzanne, ça l'indique bien à quel point nos deux cours, nos deux séminaires doivent avoir comme une forme justement de circulation ou de porosité. Tu sais, parce que c'est très intensif, on est parfaitement conscient que c'est exigeant pour l'étudiant. C'est suivre à chaque jour deux cours. Hein? Pendant deux semaines, il y a seulement une journée de congé. Alors, autrement, ça serait impossible. Si on était dans des cours éloignés l'un de l'autre, je ne peux pas imaginer là, que ça pourrait être intéressant ou fécond pour l'étudiant. Pas du tout, absolument pas. Tu sais?
Oui, je pourrais peut-être intervenir à Doc aussi pour encore un autre aspect. C'est une sorte de sur-mesure, et ça, on l'a expérimenté particulièrement. C'est-à-dire que, par exemple, les étudiants actuellement, ils doivent présenter demain leur champ de travail, celui qu'ils ont ouvert là, durant les dernières semaines. Et il y a des ajustements qui se font entre le cours de Jacques et le cours actuel. Et c'est vraiment... On réagit auprès avec la cohorte qu'on a, avec ceux qui veulent, comment ils se sentent prêts à travailler. Et on peut modifier l'horaire ou le programme qu'on avait au départ en fonction de leur réaction et de leurs besoins au fur et à mesure qu'ils travaillent. Donc, il y a vraiment... Moi, je conçois le séminaire plan d'études vraiment comme un atelier, comme un cours pratique, en fait, dans lequel on a
on doit faire quelque chose que tout artiste doit faire, c'est-à-dire ouvrir, comme je disais, un champ de travail, problématiser, entreprendre un nouveau projet, faire le point. Par exemple, dans le plan d'études, il est question d'une synthèse des acquis et d'une projection. Mais au début, on fait une synthèse des acquis surtout, on a quelques idées. À la fin, c'est surtout une projection, mais on refait une synthèse dans un angle de vue qui n'était peut-être pas celui du départ, où on ne va pas aller tout chercher, mais certains éléments, par exemple, il y a une étudiante qui disait « je revois tout ce que j'ai fait auparavant, mais il y a plein de choses que je n'avais pas vues dans ce que je faisais, que maintenant je fais intervenir dans une projection, une problématisation, et cette problématisation, c'est ce que les étudiants présentent à des directeurs de recherche potentiels dans le programme. Alors, ça permet d'être beaucoup plus précis dans l'encadrement qui va suivre pour toute la suite du programme. Et il faut aussi mentionner que la maîtrise interdisciplinaire, c'est aussi une maîtrise qui est très individualisée jusqu'à un certain point. Alors, voilà. Donc, je ne sais pas, Jacques, si tu voulais rajouter quelque chose.
Alors, voilà. Mais nous sommes quasiment dans les temps. Il nous reste 5 minutes si nous voulons respecter notre heure de 5 à 6. On donnera le mot de la fin à Marie-Christiane qui a lancé cette émission, cette première émission. D'ailleurs, rendez-vous demain à 5 heures. Mais avant le mot de la fin, un petit mot sur Percé peut-être. Jacques, tu es devenu professeur à Percé. Tu es artiste essentiellement et tu es devenu au fond quasiment professeur à Percé. Et
J'étais artiste. J'ai eu une pratique, oui, pendant une quinzaine d'années. Bon, j'ai arrêté cette activité. Ça fait déjà une dizaine d'années, oui. Bon, c'est peut-être une suite de concours de circonstances. Là. C'est, grâce à Marie-Christiane, d'ailleurs, oui. Je suis arrivé ici, ça fait 5 ans. C'est à ce moment-là que j'ai donné mon premier séminaire. Et puis, oui, après 3 jours, j'ai eu vraiment la piqûre. Alors maintenant, je continue, j'enseigne à toutes les années, à Chicoutimi et à Québec. Ça me fait toujours plaisir de revenir à Percé, ouais, justement parce qu'il y a un rapport affectif, c'est ici que ça a commencé, il y a la force du lieu, la poésie du lieu, tout ça, ouais.
On comprend bien aussi, à travers la description que vous en donnez, Suzanne, toi, Marie-Christiane, le côté précieux de cette expérience partagée ensemble, là, c'est jour après jour, pendant 15 jours, en ce qui concerne les étudiants, ce travail très serré, tricoté serré, où les étudiants repartent avec une nouvelle fondation à leur travail. Alors, je pense qu'on est venu au mot de la fin. On va rendre le micro à Marie-Christiane, à moins que vous ayez une petite chose à rajouter. Chère Marie-Christiane, première émission Percé, rendez-vous demain à 5h et après-demain. Marie-Christiane.
Ben, en fait, c'est un projet que je chérissais depuis longtemps. Même, en fait, quand je suis arrivée ici la première année, je me disais une station de radio à Percé serait une idée fantastique. Parce que Percé est un lieu qu'on sait qui a été visité par plusieurs artistes, André Proton, et il y avait une culture du théâtre, de la musique, de la rencontre dans les années 70. Tous les jeunes qui n'étaient pas passés par Percé devaient y passer. C'était un lieu presque mythique aussi, avoir tout ce paysage qui est magique. Je crois que l'art doit être encore ce large. Là, on parle de l'art avec plusieurs nuances là. Hein. Je veux dire l'engagement de l'artiste, la présence de l'artiste doit avec sa pensée, ses concepts et en fait tout ce dont on a parlé aujourd'hui doit être présent dans ce milieu. Donc la radio permet ça et puis j'espère que ça pourra se reproduire l'année prochaine parce qu'en fait là on repart avec l'émetteur vendredi. Donc le signal va être coupé. On en profite pendant qu'on est là pour partager nos expériences et on sera de retour demain avec d'autres entrevues et d'autres propos. Donc, et vendredi, avec le bouquet final, avec nos 3 artistes résidents. Donc, on vous dit à demain. Et puis, Ben merci et comme il disait, and good luck.